écrit d'ici. Avec le CIALA, C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Catherine Laurent.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Catherine Laurent. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que nous allons, avec Catherine, échanger autour de son roman intitulé Les Criants, édité au Seuil en 2002, donc il y a tout juste 20 ans. Cet écrit sera suivi d'un autre ouvrage écrit par Catherine qui s'appelle Il est parti, édité aux éditions La Cause des Livres et qui lui a valu le prix Audou. Il y a également un texte qui a été écrit avant Les Criants en 1995 dans un ouvrage collectif et qui s'appelle Scintigraphie au noir. Ça avait été publié chez Gallimard. Voilà pour ce qui est, je dirais, de votre bibliographie et puis une actualité dont tu pourras nous reparler. Avant d'aller dans le cœur du livre, on va commencer par notre question fétiche, à savoir quelle histoire il y a entre l'écriture et toi, c'est-à-dire quelque chose de toujours, quelque chose qui est arrivé doucement, enfin voilà, quelle place ça occupe quoi.
Alors maintenant c'est devenu une longue histoire, puisque je ne suis plus toute jeune. Ça a commencé vraiment quand je me suis autorisée à écrire. Je crois que j'ai d'abord commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon enfance et mon adolescence. Il n'y avait pas de télévision à la maison, donc tout le monde lisait. Et je crois que j'ai commencé à écrire vraiment quand j'écrivais des lettres, en fait, quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup les correspondances. Et puis, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à écrire, mais sans vraiment penser un jour à être publié, etc. C'est venu plus tard, beaucoup plus tard. Voilà.
D'accord.
Alors, dans son livre « Les Criants », Catherine Laurent nous plonge dans le quotidien de quatre infirmières en milieu psychiatrique. Par la voix de Blanche, nous approchons les facettes du rôle des soignants face à ces malades, dont l'enfermement psychique semble insondable. Elle tente de tisser une relation de confiance, d'apporter une sorte d'apaisement à Musso, Madame Tabot, Angélique, Claire, Sylvie, entre autres. Mais la question est-ce qu'elles en sortent indemnes, ces infirmières ? André nous lit un premier extrait.
À mon arrivée, Frédéric m'avait dit « Écoute-moi, Blanche, ne leur tourne jamais le dos et si tu as peur un jour, sauve-toi avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Ils laissent tomber leur vie à tes pieds pour que tu la ramasses. Si c'est trop lourd, tu laisses par terre. Sans ça, c'est la tienne qui tombe avec. » Elle était petite avec des yeux bleus très foncés, presque noirs, des yeux graves qui contrastaient avec ses joues rebondies enfantines. Un maquillage excessif trahissait son insatisfaction, trop dodu, trop de rides, trop ceci ou trop cela. Elle ne s'aimait pas tout à fait. Mais si elle doutait de ses charmes, elle n'ignorait pas le pouvoir de ses paroles apaisantes. C'était un fait. Elle savait comment parler aux fous, mieux que personne. Oui, à l'évidence, et en toute connaissance de cause, elle avait l'art du mot et du ton juste. Frédéric était notre surveillance, mais elle était avant tout une amie. Jamais elle n'aurait abusé de son statut, au contraire. Elle s'en servait pour nous protéger et nous défendre. Elle parlait en notre nom là où nous n'aurions pas été entendus. à la faveur des événements, elle nous faisait partager son expérience d'ancienne en psychiatrie. Elle n'avait que 40 ans, mais déjà presque 20 années passées avec les fous et les soignants. Un jour, je décidai de faire partie de cette communauté. J'ai retiré ma blouse blanche d'infirmière en chirurgie, j'ai rangé mes pansements et mes pinces, et j'ai embarqué, comme on monte dans un avion qui va au bout du monde. Jeune et ignorante, je ne connaissais que des histoires de fous, innocents, affranchis ou visionnaires, comme il y en a dans les livres et les légendes. Le fou, de loin. Et je ne savais pas que cela allait me bouleverser au plus profond de moi-même.
Alors, Catherine, après cet extrait qui plante le décor, hein, si on peut s'exprimer ainsi, et la manière d'embarquer. Cet ouvrage est écrit à partir d'une expérience de soignante, oui. La tienne. Et la question, c'est comment fait-on pour écrire sur l'intérieur quand soi-même, on est aussi dans cet intérieur-là, hein, c'est-à-dire à une place très impliquée. Comment on arrive à prendre la distance pour écrire, ou faut-il prendre de la distance? Enfin, c'est toute la question.
Ouais. Non, j'y suis arrivée surtout parce que j'ai laissé passer beaucoup de temps. Il y a eu, je l'ai écrit des années et des années après, ne plus travailler en psychiatrie. Et c'était important pour moi. Une fois que j'avais pris un peu de recul, j'en étais encore imprégnée. Et c'était important pour moi d'essayer de mettre des mots, de le mettre devant moi, pour moi. Et puis d'autre part, j'avais le souci aussi de faire tomber certains clichés concernant le monde de la psychiatrie, le travail des infirmières et la vie des patients. Voilà, des clichés d'ailleurs qu'on entend encore de nos jours, hein, sur la psychiatrie. Et voilà, j'avais envie de vraiment de dire quelque chose, mais presque avec un ressort qui était un peu de la révolte, parce que je me disais que beaucoup, beaucoup de gens ignoraient totalement ce qui se passait derrière les murs d'un hôpital. Et alors, la révolte, c'est pas bon pour écrire, donc j'ai essayé de la transformer en énergie. Je voulais qu'il y ait de la vitalité aussi dans ce livre, et je crois qu'il y en a. Voilà.
Merci beaucoup.
J'espère, en tout cas.
On confirme, en tout cas, nous trois lecteurs, on confirme qu'on a trouvé de la vitalité dans le livre. Une autre question, alors, qui a à voir, sans avoir à voir, mais en tout cas avec le contenu. Ce livre, plein de vitalité, nous fait aussi flirter avec la frontière de ce qu'on pourrait appeler le normal et le pathologique, et avec aussi cette frontière entre soignant-soigné, hein, dont parfois, là aussi, l'imagerie populaire dit qu'on ne sait pas trop qui des soignants et des soignés va le plus mal. Est-ce que toi, effectivement, dans cet ouvrage-là, il y avait aussi humanisé, hein, toutes ces personnes souffrantes qui, finalement, sont pas si loin que ça des personnes qui les soignent?
Oui. Oui, c'était quelque chose que j'avais à cœur de transmettre, de ce que j'avais ressenti. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai travaillé comme infirmière en psychiatrie, de travailler dans le service de Madame Chéniaud à Maison Blanche, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a été un grand, grand médecin-chef, et qui disait qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le respect des personnes souffrantes et la confiance dans leur humanité. Elle nous le redisait souvent, pour qu'on n'oublie pas. Et voilà, donc c'était présent. Excusez-moi, j'ai un peu oublié le début de ta question.
Non.
Oui, ça y est, je crois que j'ai. Eh. Je m'en souviens. Tu parlais aussi. Oui. Comment dire? Il y avait, à force de vivre en compagnie avec eux, avec ceux qui souffrent, qui sont malades, parfois. On peut être plus fragile. On est tous psychiquement plus ou moins forts, plus ou moins fragiles, sans forcément tomber dans une pathologie difficile. Et là, à ce moment-là, on sent l'imprégnation qu'il peut y avoir quand on est avec eux 8 heures par jour. Donc moi, ça, je l'avais senti. C'était difficile à décrire. Voilà, mais je pense qu'il y a à travers peut-être plusieurs personnages, on sent quelque chose de comme une limite qu'on pourrait dépasser nous-mêmes et qui nous ferait basculer de l'autre côté.
Mais justement,
une espèce de frontière invisible comme ça.
Ouais. Par rapport à cette connaissance de la fonction, on a l'impression, en tout cas pour Frédéric, qu'elle a vécu l'expérience elle-même de malade, et que donc c'est comme si, alors pas pour tous les soignants, mais comme si c'était une aide en tout cas pour aider les autres, enfin pour soigner les autres.
Oui. Frédéric a vécu une période de, on pourrait dire, de dépression profonde.
Ouais.
Et elle s'en est sortie. Elle va bien. Mais elle comprend d'autant mieux la souffrance de certains. Et ça l'aide énormément, bien sûr.
Ouais. On va faire une pause musicale. Catherine Laurent a choisi Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Catherine Laurent pour son livre Les Criants. André nous lit un deuxième extrait.
Madame Tachot vivait dans son monde et peut-être vivait-elle mieux ainsi. Elle avait ressuscité son mari pour qu'il vive de nouveau avec elle dans leur appartement. André n'existait pas, mais elle l'attendait. Il allait arriver, tout allait bien, rien n'avait changé. Ce serait toujours comme avant la mort. quelle épreuve l'illusion ? Recommencer sans cesse une histoire à laquelle on ne croit pas, faire semblant de ne pas savoir, transformer une absence en présence. Cela me faisait penser à cette femme âgée qui m'avait appelé vers 5 heures du matin lors d'une nuit de garde. Elle allait très mal, c'était la fin. Et elle m'avait demandé « Blanche, est-ce que vous voulez bien être ma fille, ma petite France, ma Francette ? Il faut simplement que vous me parliez comme vous parleriez à votre mère, de tout, de rien. Je vous en prie. » Elle m'avait pris la main en fermant les yeux. Elle murmurait « Ma petite France, ma chérie !» Alors je lui avais raconté mon week-end en Normandie, l'immense balade sur la plage, le bain froid avant les crêpes traditionnelles faites par les enfants. « Ma petite France, ma chérie !» La vieille dame n'avait pas rouvert les yeux. Elle continuait sa litanie. Elle me serrait très fort la main. Elle s'était enfoncée lentement dans le coma et murmurait ces mots-là, des mots d'amour destinés à son enfant. 2 heures pour quitter sa vie, ce n'est pas grand-chose pour sortir de la vie. 2 heures. 2 heures pendant lesquelles je lui ai parlé doucement, lentement, de presque tout, de presque rien. À la fin, je lui caressais le visage en l'appelant « maman ».
Alors, à travers l'extrait lu par André, la question qui nous est venue à plusieurs reprises dans les portraits, classiquement avec la maladie physique ou psychique, on est persuadé qu'il y a une espèce d'obsession à faire revenir chacun dans le réel. Hein, ce serait ça le côté sain. Et là, plusieurs reprises sur plusieurs portraits, on s'aperçoit qu'en fait, les soignants accompagnent les gens dans ce qui les préoccupe au moment. Là, cette dame qui va sortir de sa vie, une très belle expression, qui souhaite effectivement que Blanche soit sa fille. Et Blanche dit « Ok, je le fais ». Et à d'autres moments, ça prend un peu des contre-pieds de ce qu'on pourrait attendre classiquement, c'est-à-dire de dire « Non, je ne suis pas votre fille ». Et la question qu'on avait, c'est à quel moment, quand on est un soignant, on sent cette obligation d'accompagner l'autre dans son histoire du moment, et de ne pas tenter de faire revenir sur le réel.
Je crois qu'il y a des moments de un peu critiques, des moments de essentiels, enfin comme ce moment-là. Je crois qu'en tant qu'infirmière, en tant que femme, on se demande juste qu'est-ce qui est le mieux pour celui ou celle qui est en face de nous, qu'est-ce qui peut lui faire du bien. En fait, on est là pour faire du bien. Après, là, on ne peut pas. Il ne s'agit plus du soin dans le sens de transformer l'autre pour que. Là, si elle est un peu, par exemple, s'il y a du délire, mais que son délire lui fait du bien, on n'a pas y touché. Enfin. Et puis surtout, les infirmières sont confrontées à des moments où elles ne sont pas en équipe. Elles ne peuvent pas avoir d'autres avis, l'avis des médecins. Donc, il faut prendre une initiative. Et je crois qu'on s'était forgé une ligne de conduite qui était celle-ci. C'était qu'est-ce qui est le mieux ? On pouvait se tromper aussi, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Merci beaucoup.
Ah oui, d'accord, c'était quelque chose d'essayer dans l'équipe, parce que ma question, là, en t'écoutant, c'était... parce que pour les jeunes soignants qui arrivent, quoi, donc qui n'ont pas les jeunes infirmières, qui n'ont pas d'expérience, elles n'ont pas forcément le recul pour prendre ces décisions, justement.
Oui, Alors, moi qui étais, comme Blanche, un peu une jeune infirmière, j'ai beaucoup appris des anciennes.
Ouais. Oui.
Qui sont vraiment des modèles dans ces cas-là, parce qu'elles ont une expérience de vie. Bien sûr, il y a un petit peu de théorie, de pratique, de ça, mais elles ont surtout une expérience. Ouais. Et les jeunes apprennent beaucoup.
D'accord.
On alors, apprend beaucoup sur le terrain. Hein.
Oui, bah oui. Ouais. Mmh. Moi, j'avais une remarque à faire, enfin une question, une remarque. C'est par rapport à deux moments dans le livre. Un moment où le moment où un SDF se trouve sur le palier de l'appartement et un autre moment.
Alors on sort un petit peu du cadre psychiatrie.
Mais ouais. C'était oui je sais. Mais l'autre moment c'est quand elle se trouve dans la rue et qu'un homme blessé qui en fait ne l'est pas et qu'elle ne fait rien quoi. Et du coup, moi, ça m'a questionnée parce que, surtout elle d'ailleurs, apparemment, que voilà, son métier, c'est d'aider les autres. Elle fait ça toute la journée. Et quand il s'agit d'aide dans sa vie privée, en fin de compte, du coup, là, elle se sent démunie.
Elle est paralysée, en fait.
Oui, voilà, elle est paralysée.
Donc c'était parce ça. Qu'il y a plusieurs façons de réagir devant un danger. On peut s'enfuir, on peut être paralysé.
Oui, oui.
On peut être actif aussi. Oui, mais là, elle a plus sa fonction. Oui. Elle a plus son costume d'infirmière et elle s'aperçoit qu'elle est impuissante. Elle est face à quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. Et en même temps, comme c'était une scène de cinéma. J'aimais bien aussi l'illusion que ça pouvait provoquer. Enfin, il y a une forme d'illusion et de transformation de la réalité. Elle est en prise avec sa propre incapacité à réagir.
Mais du coup, ça la questionne et ça la culpabilise. Culpabilise, peut-être fort, mais ça la... Elle comprend pas trop sa réaction quand même. Là,
elle ne comprend pas, et puis d'autant qu'elle a des un peu un fantasme de... d'être une héroïne, de sauver. Oui, elle est face à son humanité, elle est face à sa fragilité, c'est pas parce qu'elle travaille dans un milieu, dans un centre de soins, qu'elle est dans la vie, qu'elle peut l'être, pas du tout.
Non, mais c'est sûr, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce passage, parce que c'est comme tout un chacun, quoi, je veux dire. Bon, mais...
Oui. Alors peut-être qu'une autre infirmière, peut-être qu'il y a des gens qui sont soignants dans la vie et dans leur travail. Hein.
Ah oui,
mais,
oui.
Voilà,
puis il y a des gens qui ne sont pas soignants dans la vie et puis qui aident. Non, mais c'est sûr.
Alors, à ce propos, pour enchaîner, on avait une question justement sur cette idée de comment navigue-t-on entre monde réel et ce monde parallèle hein, qui est décrit, que tu décris dans l'ouvrage, page 49, à un moment donné, hein, tu parles d'un monde un peu parallèle. Et moi, ça évoque cette question que l'on a, c'est-à-dire comment on passe de l'un à l'autre, avec la porosité des frontières, les fragilités. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent un peu ce passage sans trop de traumatisme, sans que ça ne déteigne ni dans un sens ni dans l'autre ?
Oui, bien sûr, le fait de travailler ensemble aussi, ça permet de rester dans la réalité.
D'accord, merci.
Le fait de travailler ensemble, beaucoup.
Ouais. Ouais. Le ensemble, ouais.
Oui.
Bon, alors, André va nous lire le troisième et dernier extrait.
Le lendemain, Dani me raconta qu'elle avait eu tort de croire qu'elle pouvait être insouciante de temps en temps. Non. Sa vie professionnelle était entrée dans sa vie privée. L'hôpital psychiatrique, c'était toute sa vie ou presque. Parfois, elle avait peur pour elle. Elle savait qu'elle n'était pas à l'abri de la folie. Heureusement, il y avait Paul qui, lui, était tellement loin de tout ça, d'ailleurs, il n'avait jamais mis les pieds à l'asile. Dès qu'elle commençait à raconter, il l'attirait à lui, il la prenait sur ses genoux, il mordillait son oreille, il l'embrassait, il l'aimait, il l'adorait. Elle se sentait pleine d'amour pour lui et regrettait de ne pas être plus joyeuse, plus légère, plus aimante dans sa vie de tous les jours, confrontée à la douleur, à la maladie et à la mort, tous les jours en face de la folie. Ça ne se voit pas forcément, mais ça tire vers le bas. « Tu comprends, Blanche ?» demandait Dany. « Oui, je comprenais. » « Non, je ne comprenais pas. Comment avait-elle tenu aussi longtemps, elle et Frédéric ? Comment ? Sans sombrer, sans tomber, sans dire non. Plus j'étais dans les confidences, plus j'avais peur. Je ne me sentais pas comme elle. Elle vivait comme dans le Grand Nord où il fait nuit le jour. Moi, j'avais besoin de l'été, du soleil, de la chaleur. » Je ne peux pas vivre sans quelques idées sur le bonheur. Comment faisait-elle ? Tu comprends, Blanche ? Moi, j'ai une famille. Un médecin avisé disait : ce qui compte pour eux, c'est de nous trouver quand ils en ont besoin. Rêve, Dany, ferme les yeux et rêve que personne ne t'attend, que tu es libre. Oublie ton âge et ta progéniture, enlève ton gilet pare-balles, tous tes systèmes de protection, tes points gagnés à l'ancienneté, tes voyages en groupe avec le comité d'entreprise. Accorde-toi du temps, chante et danse, pense à toi. Tu as mélangé si longtemps l'intime et le social, sais parler, fabrique des secrets, lâche-les, lâche-nous. Va flâner aux puces, égare-toi, n'aie pas peur, rêve. Tu ne pourras pas tous les sauver. On les entendra toujours crier.
Peut-être une envie pour toi, Catherine, de dire quelque chose suite à la lecture. C'est comment, effectivement, on quitte un peu... On quitte et on s'en va. Je ne sais pas ce que tu aurais envie d'en dire.
On quitte et on s'en va.
On quitte et on s'en va. Le fait de partir, laisser partir ou quitter le métier ou se fabriquer des rêves, comme il est dit sur.
C'était un peu une image. Cette façon de dire, vas-y, pars, lâche-nous. Il y avait beaucoup de soignants. Qui savait très bien prendre du champ, qui savait prendre de la distance, plus que d'autres, j'ai remarqué. Et ça, peut-être avec des passions, des activités extérieures à l'hôpital ou au dispensaire, puisqu'on travaillait sur les deux. Après, c'est chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut, mais la dimension du loisir, la dimension personnelle est très importante, je pense, dans des professions comme ça. Il faut savoir se réserver des espaces, des espaces à soi, des espaces de liberté, des espaces avec les autres. Il faut qu'il y ait de la vie, il faut que ça se nourrisse de vie, parce que c'est quand même des lieux difficiles, qui sont durs. On oublie souvent, je pense, que les infirmiers... à l'hôpital, en psychiatrie ou pas d'ailleurs, font un travail extraordinaire, difficile, au contact de la maladie et de la mort. Et je ne sais pas si on y pense assez. Enfin, voilà.
Merci beaucoup. Oui, alors là, du coup, on va arrêter parce que il est largement temps. Donc, on va juste quand même commencer. On n'aura pas, à mon avis, tout. Le choix de Catherine Laurent, « Les gens qui doutent ». Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons.